Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant l'importance de la prière. Et nous arrivons maintenant à la deuxième partie. La deuxième partie de cette série. Le titre sera « Quelle est la base de toute prière agréable à Dieu ?» Quelle est la base de toute prière agréable à Dieu ? Il sera bon alors que nous allons nous arrêter sur ce grand ministère de la prière, de nous rappeler avant tout la base sur laquelle la prière est agréable à Dieu. Et avant de toucher à ces pensées d'un caractère peut-être plus technique, il nous faut reconnaître la fondation spirituelle de la prière. Elle est liée aux aromates et aux, on peut dire, à l'encens. Il y a les aromates et il y a l'encens qui devait être offert sur l'autel d'or et dont nous parle Exode, le livre de l'Exode, chapitre 30, à partir du verset 34. Là, il est dit que l'Éternel a dit à Moïse, « Prends des aromates, de la résine, de la coquille odorante, du galbanum, et de ces aromates mêlés à l'encens pur, en partie égale, eh bien tu composeras un parfum, un mélange préparé selon l'art du parfumeur et qui sera salé, pur et saint. En pillant ce mélange, tu feras une poudre que tu répandras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. » Versets 34 à 36. Ce n'est pas notre intention de reprendre ces aromates pour en faire une étude, mais nous remarquons simplement que le Seigneur a ordonné certaines lois pour l'encens pur et il a fait une déclaration très ferme en ce qui les concerne. Il a dit, vous ne ferez pas pour votre propre usage un parfum de cette composition, ce sera pour toi une chose uniquement consacrée à l'Éternel, celui qui fera un parfum semblable pour en respirer l'odeur sera retranché du milieu du peuple. Versets 37 et 38. J'ai pris la version allemande. C'est la base de toute prière agréable à Dieu. L'encens pur, les aromates du parfum, nous le savons, représente les perfections morales du Seigneur Jésus, ses grâces, ses vertus, ses mérites et sa dignité. L'encens ne représente pas les prières des saints. L'encens représente les mérites et les vertus du Seigneur Jésus que nous présentons dans les prières, qui sont mélangés aux prières et sont ce qui donne aux prières leur efficacité et leur acceptation en la présence de Dieu. Il y a donc là la perfection, puisqu'il y a quatre aromates, la perfection des grâces et des vertus et des valeurs morales du Seigneur Jésus. Ensuite, comme nous le remarquons, du sel qui toujours parle de conserver les choses en vie, Cela doit être donc mélangé à ces aromates. Et cela semble nous suggérer que la présentation des valeurs morales du Seigneur Jésus doit toujours être libre de toute formalité froide qui signifie mort et doit donc rester vivante et vitale. Il est très possible qu'une contemplation du Seigneur Jésus devienne machinale et formaliste, c'est-à-dire un acte que nous avons accepté dans notre esprit comme nécessaire et vrai, et que nous en arrivons ensuite à penser machinalement, un peu au mérite du Seigneur Jésus, alors que Dieu demande qu'il soit continuellement vivant pour nous. À chaque nouvelle approche de Dieu, nous devons avoir une nouvelle appréciation vivante du Seigneur Jésus. Le sel doit donc préserver les choses de la mort, doit les garder vivantes, doit les conserver fraîches, les garder ferventes, et il nous est demandé d'avoir en quelque sorte une appréciation vivante et fervente du Seigneur Jésus. Et s'il en est ainsi, la prière est acceptable et efficace. Le sel n'est point l'un des aromates, il est simplement ajouté aux aromates. Le sel est ce qui est incorruptible. Et l'ordre très strict est donc donné ensuite que rien de semblable ne soit fait par l'homme lui-même, ni surtout pour lui-même. Il ne devait donc y avoir aucune imitation de ce parfum et l'homme ne devait et ne pouvait se l'approprier de manière privée ou personnelle. Il devait être gardé toujours pour l'Éternel, saint pour l'Éternel. Et toute violation de cet ordre, cela signifiait la mort. Nous le savons, à une occasion, l'offrande d'un feu étranger avait résulté en jugement et en mort. Il nous est donc dit ici que si ce parfum était fait par l'homme, s'il en faisait une imitation pour lui-même et ses besoins personnels, il serait retranché du milieu de son peuple. Les valeurs morales du Seigneur Jésus ne peuvent jamais être imitées. L'homme ne saurait les posséder en lui-même et tout ce qui est fin est absolument inacceptable à Dieu. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de gloire comparable à celle du Seigneur Jésus. Dieu déclare ici, des plus définitivement et positivement qu'il y a dans le caractère du Seigneur Jésus, quelque chose d'unique et d'exclusif que l'homme ne saurait approcher et qui est absolument au-dessus de tout ce que l'homme peut accomplir par lui-même. Donc, Dieu voit dans le Seigneur Jésus ce qui n'est nulle part ailleurs. Et si l'homme cherchait à imiter les mérites du Seigneur, les mérites du Seigneur Jésus, eh bien, cela signifierait mort. Nous ne pouvons nous approcher de Dieu sur la base de nos propres valeurs morales. Et c'est un peu en cela qu'il y a un terrible blasphème à parler du sacrifice fait par des hommes qui, par exemple, ont donné leur vie pour leurs camarades, en le comparant exactement au sacrifice du Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour nous. C'est pas du tout pareil. C'est un horrible blasphème qui doit passer sous le jugement entier de Dieu. Non, non, non. Dieu ne voit rien qui soit semblable aux valeurs morales de son Fils. Et il nous défend d'essayer d'offrir quelque chose qui en soit une imitation, une chose faite par l'homme ou ne serait pas reconnue, on peut dire, la perfection unique du Seigneur Jésus. Alors la base de toute prière acceptable à Dieu, eh bien, c'est que nous nous approchons simplement du Père en nous appuyant sur quoi ? Eh bien, sur les perfections morales, sur la gloire, sur les grâces, sur les vertus, sur les mérites et la valeur du Seigneur Jésus. C'est très simple, mais c'est fondamental. Et pour que nos prières aient vraiment de la valeur, il nous faut donc reconnaître cette profonde vérité. Nous pouvons maintenant arriver au sujet de la prière elle-même. Nous aimerions parler en premier lieu de la nature de la prière, de ce qui constitue la prière à ses différents points de vue, et tandis qu'il peut y avoir plusieurs autres aspects, nous pouvons dire cependant que la prière a 5 aspects différents, c'est-à-dire la communion, la soumission, les requêtes, la coopération et les conflits. Donc, la prière est chacun de ces aspects-là. Et la prière, dans son ensemble, les demande tous ou les comprend tous. Donc, premièrement, nous avons la prière est une communion. La prière est une communion. En effet, premièrement, la prière est vraiment une communion. C'est l'amour qui ouvre le cœur de Dieu et c'est la fondation de toute véritable forme de prière. Nous pouvons la comparer aux deux activités fondamentales de notre corps humain. Lorsque nous parlons des activités de notre corps physique, nous parlons de ce qui est organique et ensuite de ce qui est fonctionnel. Un trouble organique est très sérieux, un trouble fonctionnel l'est moins. Et la prière, en tant que communion, prend la place de ce qui est organique dans notre corps. Une part de notre constitution organique, c'est notre respiration. Nous ne nous arrêtons jamais pour y penser. Nous ne réfléchissons jamais en nous demandant « Est-ce que je respire ?» ou bien « Est-ce que je dois respirer maintenant ?» ou encore « Combien de fois devrais-je respirer aujourd'hui ?» Nous pouvons faire cela au sujet de notre repas. Ça, c'est une fonction. Mais nous ne le ferons jamais au sujet de notre respiration. Elle est organique. Nous pouvons donc nous demander si nous allons marcher ou penser ou parler et nous pouvons décider de ne plus penser, ni marcher, ni parler. Ce sont des fonctions qui sont contrôlées, qui sont délibérées, mais nous ne le ferons jamais au sujet de notre respiration. Elle se continue. Mais si notre respiration allait cesser, eh bien notre parole cessera, notre marche cessera et notre pensée cessera et la respiration est donc fondamentale pour toutes nos fonctions. Ainsi la prière, en tant que communion et dans la vie spirituelle, ce que est, c'est exactement ce que est la respiration dans la vie physique. La communion avec Dieu est soutenue elle est ce que est la respiration, elle se continue ou elle devrait se continuer. Elle devrait se continuer. Elle diffère donc entièrement de ses activités périodiques et fonctionnelles, telles que la nourriture. La respiration est tout à fait involontaire, elle n'est pas simplement délibérée. Nous pouvons l'appeler une habitude, et une habitude en enlève facilement le sentiment à celui qui l'a prise. Nous faisons habituellement les choses sans être conscients du moment où nous les faisons. Et lorsque une habitude est entièrement prise, elle devient une part inconsciente de notre conduite. Et la communion avec Dieu est précisément cela. Elle se continue. Je répète, la communion avec Dieu est précisément cela. Elle se continue. La prière en tant que communion, et simplement cela, nous sommes en contact avec le Seigneur et spontanément, même involontairement, nous ouvrons notre cœur au Seigneur. C'est la première chose fondamentale dans toute prière et c'est une chose à laquelle nous devons donner toute notre attention. Tandis que nous ne discutons jamais pour savoir si nous allons respirer, il est cependant possible de développer une bonne respiration. Et dans ce sens-là, nous devons donner notre attention à notre respiration. De tous les hommes qui sont un exemple de cette vie organique en communion avec Dieu, le docteur F.B. Meyer est celui qui frappait le plus, car peu importe où il se trouvait, quelles étaient les circonstances, il s'arrêtait subitement, peut-être en dictant une lettre dans une conversation, dans une réunion d'affaires, et il disait simplement « Arrêtez un instant ». Et il priait. Et ce fut son habitude durant toute sa vie. Il continua ce chemin. Il semblait être à chaque instant en contact avec le Seigneur. C'était donc pour lui comme la respiration. Je crois que cela représente l'un des secrets de sa vie si pleine de fruits et la valeur de son jugement dans les choses du Seigneur. Ceux-là seuls qui ont été en contact intime avec lui, spécialement dans les assemblées, dans les églises exécutives difficiles, eh bien connaissent et connaissaient la valeur de ce jugement spirituel qu'il exerçait sur les situations et tout semblait lui être donné très simplement comme venant directement du Seigneur par le Saint-Esprit. Oui, c'est la prière dans sa fondation. C'est la communion. C'est le cœur qui s'ouvre spontanément au Seigneur. Ce n'est pas encore toute l'étendue de la prière, mais c'est la vie vécue à la base de toutes les activités délibérées, une vie en contact avec le Seigneur, et ça, c'est une chose très, très précieuse. Cela rend toute autre prière tellement plus efficace. Si nous possédons ce secret, c'est une vie si différente d'une vie qui ne connaît la prière que dans les difficultés. Les difficultés sont très souvent beaucoup plus critiques qu'elles ne devraient l'être, car il nous faut retrouver l'accès auprès de Dieu au lieu d'être avec lui. Je pense que très souvent, le Seigneur permet les difficultés afin de nous faire retrouver avec lui, afin de nous retrouver la communion que nous avions perdue et dont la pensée du Seigneur, le fruit de ces difficultés, doit être pour nous de ne plus jamais perdre ce contact qu'il nous a rendu par l'épreuve, mais de le retenir fermement. Deuxièmement, nous avons dit que la prière est une soumission. Oui, deuxièmement, la prière est une soumission. Il nous faut prendre garde ici à la possibilité d'une contradiction de termes. La prière est une soumission. L'inaction passive et que nous appelons confiance, ça c'est pas la prière. Nous entendons parler de confiance, ce qui signifie pour ceux qui s'expriment ainsi, une simple passivité, l'inaction. Mais ce n'est pas la prière ça. La soumission, elle devrait toujours être active, elle n'est pas passive. La soumission engage toujours la volonté, elle ne met pas de côté la volonté, pas du tout. Saisissons-nous bien de cela. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que la soumission consiste simplement à s'appuyer sur le Seigneur avec confiance, et lorsqu'ils s'adressent au Seigneur, leur prière prend son caractère d'une telle attitude, mais ce n'est pas vraiment la prière. L'acceptation tacite des choses telles qu'elles sont n'est pas une soumission, et ce n'est pas la prière. La soumission signifie entrer en ligne avec la pensée de Dieu. Je répète, la soumission signifie ou doit signifier d'entrer en ligne avec la pensée de Dieu. Et cela peut signifier des conflits. Cela signifiera invariablement une action. Cela fera intervenir la volonté. La prière, à quel point de vue que nous la considérions, est toujours positive. Elle n'est jamais passive. La confiance, ça c'est autre chose. Elle n'entre pas dans le domaine de la prière. La foi entre dans le domaine de la prière, mais la foi est toujours active, elle n'est jamais passive. Je répète, la foi est toujours active, elle n'est jamais passive. La foi peut demander une bataille pour entrer dans une place de repos, ce qui arrive souvent, mais le repos de la foi n'est pas ce que nous avons appelé une acceptation tacite. Le repos de la foi est le dernier stage où nous arrivons dans notre ajustement à la volonté de Dieu. La soumission n'est pas simplement la suppression du désir, elle consiste à mettre le désir en ligne avec la volonté de Dieu, et s'il est nécessaire, à changer le désir. Le désir peut être une chose très forte, une force puissante qui nous pousse, mais une force de propulsation qui doit être sous un tel contrôle qu'elle peut être tournée dans la direction d'une force qui nous arrête. Nous voulons dire que la force qui fait avancer un train représente une puissance immense. Mais un train moderne est conçu de telle manière que la force puissante de propulsion qui le fait avancer peut être en un instant aiguillée sur ses freins pour le retenir et l'arrêter, et dans la prière, là où la soumission a sa place, c'est très souvent ce qui doit être fait. La force du désir doit être arrêtée dans une certaine direction et nous porter dans une autre direction, peut-être au lieu de nous faire avancer, doit-elle nous amener à un arrêt dans la volonté de Dieu. Ça, c'est la soumission. Nous voyons qu'elle est une chose active. Elle est donc une chose positive, c'est la soumission. Il y aura sans doute beaucoup de questions dans notre cœur à cet égard, mais il est très important de reconnaître que la prière, sous son deuxième aspect, est une soumission et c'est une chose positive. Elle ne consiste pas à s'effondrer devant Dieu en disant « Oui, 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 je crois que tout ira bien et j'accepte les choses telles qu'elles sont en les abandonnant au Seigneur. » Ça, c'est entrer positivement en ligne avec la volonté de Dieu, le désir de Dieu, la pensée de Dieu, c'est la soumission. Et très souvent, elle représente le conflit le plus profond et on peut dire même un brisement de cœur. Mais c'est la soumission. Elle est donc nécessaire, d'accord. Et nous reviendrons à cela un peu plus loin. Troisièmement, nous avons dit, nous avons la prière qui est une requête. Oui, la prière est une requête, une supplication ou une demande, selon le mot que nous préférons. Il représente la même chose. Et nous touchons ici à ce qui, dans l'activité de la prière, en est peut-être l'aspect le plus important. Sans aucun doute, cet aspect a, dans les Saintes Écritures, la place la plus grande, et il définit réellement la signification du mot prière. Au point de vue des Saintes Écritures, la prière est considérée justement comme signifiant supplication, et si nous prenons la parole de Dieu, nous verrons que dans la plus grande mesure, la prière signifie une supplication. Je répète, la prière signifie une supplication. Peut-être n'est-ce pas nécessaire de chercher à le prouver pour que nous en soyons persuadés, mais nous sommes certains que nous comprendrons facilement combien il est nécessaire de relever ce fait. Car nos problèmes les plus difficiles se trouvent dans cette direction de la requête. Pratiquement, tous nos problèmes s'élèvent dans ce domaine de la supplication. Nous continuerons évidemment à prier et nous continuerons à demander malgré tout. Et je crois que nous le ferons. Mais il est bon pour nous d'avoir une base bien établie pour nos supplications, pour nos requêtes, pour nos demandes, de reconnaître très clairement et d'être pleinement assuré qu'il y a une efficacité objective dans la prière. Nous n'avons aucun doute à ce que, pour chacun de nous, il arrive un moment ou l'autre où nous pourrons être arrêtés dans nos prières de requêtes et de demandes à cause d'un petit sentiment caché qui s'infiltrera et enlèvera notre certitude. Ce que nous voulons dire, c'est ceci. L'efficacité objective de la prière, c'est-à-dire le fait que la prière a le pouvoir de changer les choses objectivement et non simplement d'avoir sur nous une influence intérieure, la prière qui apporte des réponses en dehors de nous-mêmes, supplication, requête et demande, cela se trouve en présence de tous ces faux arguments tels que l'omniscience de Dieu rendrait, soi-disant, la prière inutile. Dieu connaît tout. Il sait ce qu'il veut faire. Il sait comment le faire. Il connaît la fin de toute chose dès le commencement. Alors, pourquoi prier? Ou encore, la bonté de Dieu rend la prière absolument superflue. Dieu est bon, il est plein de compassion, de miséricorde et de patience. Il fera bien ce qu'il y a de meilleur. Il est amour. La prière est donc superflue. Supplier le Seigneur d'être bon, d'être rempli de grâce, de manifester de la bonté, de faire pour nous ce qu'il y a de meilleur, pourquoi ne pas se confier à la bonté de Dieu? La prière est donc superflue, c'est ce que certains pensent. Ou encore, la prédestination divine, tout cela rend la prière absolument inutile. Si Dieu a décidé de toute chose éternellement, alors la prédestination demeure. Il est donc absolument inutile de prier. Ou bien, accompagnons tous ces arguments, la souveraineté de Dieu, le fait que Dieu règne et qu'il gouverne, qu'il est sur le trône du gouvernement et qu'il a toute chose entre ses mains et sous son pouvoir, fait donc de la prière un manque de foi. Pourquoi demander? Pourquoi prier? Pourquoi supplier? Pourquoi faire des requêtes alors que toutes choses sont entre les mains de Dieu et qu'il règne et qu'il décide et gouverne et dirige dans sa souveraineté? Ou encore, l'étude divine de la loi et du destin rend la prière présomptueuse. C'est de la présomption que de demander à Dieu de changer les choses qu'il a fixées selon ses lois éternelles et qui existent et se font en correspondance avec un ordre établi. C'est de la présomption que de nous attendre à ce que Dieu sorte de son ordre, de lui demander de le faire. Nous pouvons ne pas avoir exprimé ces pensées de cette manière-là, mais ces questions peuvent ne jamais s'être élevées dans notre pensée de cette manière. Mais cependant, je peux croire à ce fait que ces mots aient été dans notre pensée ou non, que nous ayons exprimé ces pensées de cette manière ou non, et bien de temps à autre, ce qu'elles signifient peut s'être infiltré subitement dans notre vie. Ça peut arriver dans notre vie de prière pour en quelque sorte l'affecter et pour en enlever la force. Voyez-vous, lorsque nous avons prié, un sentiment indéfinissable nous a pénétré, un sens. Mais le Seigneur sait ce qu'il veut faire. Pourquoi donc l'implorer? Le Seigneur est bon et compatissant. Pourquoi le supplier? Le Seigneur connaît la fin dès le commencement. Pourquoi ne pas simplement me confier en lui? Les desseins du Seigneur sont fixés. Pourquoi commencerais-je à lutter avec Dieu afin qu'il change les choses? Il accomplira son dessein, il a une pensée éternelle qui pourrait la changer. Oui, qui pourrait changer cela? Donc, la prière est effectuée, sinon, par l'expression actuelle et mentale de ces mots, mais par un sens de contradiction qui nous pénètre. Donc, toutes ces pensées peuvent s'infiltrer dans l'esprit ou le cœur et ont une tendance à affaiblir ou à arrêter la prière. Il sera donc nécessaire de revenir à tout cela plus pleinement à mesure que nous avancerons. Il nous faut donc reconnaître que le modernisme de notre temps met de côté l'efficacité objective de la prière et ne donne à la prière que la place d'une valeur subjective, d'une influence salutaire sur celui qui prie en produisant en lui, en elle, un changement peut-être de conduite, de pensée, de raison, par certaines qualités de respect et choses semblables. Avant donc de voir quelques-unes de ces choses plus pleinement, permettez-moi de dire que nous devons toujours garder deux choses dans notre pensée à l'égard de la prière de requête. La première est le besoin fondamental de la communion et de la soumission dont nous avons parlé. Pour la prière de requête, en laquelle nous croyons malgré tout ce que nous venons de dire et que nous continuerons, le besoin fondamental est la communion avec le Seigneur, de sorte que la prière ne consiste pas simplement à demander à Dieu de faire quelque chose, mais elle sort d'une communion du cœur avec lui. Et ensuite, la soumission, de sorte que nos requêtes ne s'élèvent pas pour des buts uniquement personnels, selon des désirs absolument personnels, mais par la soumission, nous avons été amenés en ligne avec la volonté de Dieu et notre requête sera donc basée sur notre unité de pensée avec la pensée et la volonté de Dieu. Nous verrons que nous ne faisons que exprimer d'une autre manière, ce que la Sainte Parole de Dieu nous montre tout à fait clairement. Si vous demandez quelque chose selon sa volonté, ça, c'est la soumission. La deuxième chose que nous devons garder dans notre esprit au sujet de la prière de requête, en rapport avec toutes les difficultés mentales dont nous avons parlé, c'est que la prière de requête devient avant tout un acte de foi. Ce sont ces choses qui font surtout de la prière de requête un acte de foi. Oui, on peut discuter dans ces lignes, si l'on veut, au sujet de la souveraineté de Dieu et de la prédestination, etc. Et nous croyons cependant que Dieu changera les choses. Malgré tous les arguments qui affaibliraient la prière et arrêteraient la prière, nous continuerons à demander, et cela fait avant tout de la prière de requête un acte de foi. L'on peut donc dire que c'est une manière facile de sortir de la difficulté, d'accord, mais nous n'avons pas encore terminé. Et c'est cependant la conclusion à laquelle nous devons arriver. Nous ne voulons pas nous en tirer trop légèrement. Alors, quatrièmement, la prière est une coopération. Il y a encore deux autres aspects de la prière. Nous en toucherons un maintenant. Nous prendrons l'autre un peu plus loin. Le quatrième est donc une coopération, et c'est là l'objet qui gouverne la prière. Il est à la base de tous les autres aspects et nous donne la véritable attitude dans la prière à l'égard de tous ces aspects. La communion, la soumission, la requête, le conflit, tous ces aspects sont ajustés et à leur place lorsque nous reconnaissons que la prière est une coopération. Alors, tous ces autres aspects et ces autres phases de la prière sont pour la coopération. La coopération est la raison, elle est la vérité, et elle est la vie, elle est la liberté, elle est la puissance et elle est la gloire de la prière. La raison de la prière, c'est donc notre coopération avec Dieu. Je répète, la raison de la prière, c'est notre coopération avec Dieu. Pour avoir la vie dans la prière, il nous faut reconnaître qu'elle est une coopération avec Dieu. Et nous avons la vie lorsque nous entrons dans la prière comme en coopération avec Dieu. Si nous ne sommes pas en coopération avec Dieu, eh bien nous pouvons être certains que nous n'aurons pas de vie dans la prière. Si nous coopérons réellement avec Dieu, nous savons que nous avons la vie dans la prière. La liberté dans la prière nous est donc donnée dans la mesure de notre coopération avec Dieu et ce sera pas avant d'être ajusté, avant d'être entré en ligne avec le dessein de Dieu que nous arriverons à la victoire. Aussitôt que nous entrons en ligne avec le dessein de Dieu et que nous coopérons activement, nous avons la vie, nous avons la liberté. De la même manière, la puissance de la prière, elle est liée à notre coopération avec Dieu. La coopération avec Dieu, c'est la force dans la prière. Pensons à Élie et aux autres hommes de Dieu qui entrèrent en coopération avec Dieu. Quelle efficacité a eu leur prière, ce qu'elle a accompli. Et ensuite, la gloire de la prière. La prière est devenue glorieuse lorsque elle est réellement, de manière intelligente et spirituelle, une question de coopération avec Dieu. La coopération élimine l'égoïsme et tout ce qui est simplement personnel. C'est l'une de ses valeurs principales. Et cela signifie que la prière doit nous faire entrer dans le plan divin, dans la méthode divine, dans le temps divin et dans l'esprit divin, c'est-à-dire la disposition divine. Toutes ces choses sont donc très importantes. Non seulement nous devons connaître le plan, mais nous devons connaître la méthode pour laquelle Dieu accomplit son plan. Non seulement connaître le plan et la méthode, mais entrer dans l'heure de Dieu et ensuite non seulement rester de ce côté d'action, mais être dans le même esprit pour faire la chose lorsque l'heure sera venue, pour la faire dans l'esprit, la disposition du Seigneur. Donc tout cela, c'est la coopération. Nous pouvons être dans une bonne chose, dans la bonne voie, à l'heure juste, et cependant ne pas aider le Seigneur parce que nous sommes dans un esprit qui n'est pas l'esprit du Seigneur. La prière en coopération avec Dieu doit donc nous ajuster dans toutes ces questions. Il y a donc trois facteurs qui sont essentiels pour la prière. Premièrement, le désir. Deuxièmement, la foi. Et troisièmement, le vouloir et la volonté. Nous nous contentons de mentionner cela pour que chacun, chacune puisse y penser. Ensuite, lorsque nous réunissons la communion, la soumission et la requête, nous avons la coopération. Lorsque elles sont unies, lorsque nous les avons ajustées l'une à l'autre, lorsque elles sont dans la même ligne, bien ensemble, alors la communion, la soumission, la requête, bien en ligne avec la volonté de Dieu, alors là, nous avons la coopération. Peut-être en terminant cet aspect des choses pour aujourd'hui, devons-nous nous souvenir que très souvent, le Seigneur demande de notre part un exercice avant d'intervenir. Il demande très souvent une initiative de notre part dans cette question de désir, de foi et de volonté. C'est comme la goutte d'eau que l'on doit mettre dans les anciennes pompes et qui produit le courant, et l'eau ne jaillit pas avant que l'on ait donné à la pompe cette petite aide. Et le Seigneur demande donc précisément de notre part, ce qui n'est en comparaison que très petit, mais qui lui permet de venir en nous en plénitude. Ainsi, très souvent, la prière représente pour commencer un exercice de volonté, de foi et de désir. Et ensuite, le Seigneur nous répond dans sa grâce. Peut-être le Seigneur ne répond-il pas avant de voir le désir, exprimé par une action délibérée de la volonté, et ainsi d'arriver à lui. Nous pouvons ressentir très souvent beaucoup de découragement, c'est vrai, au commencement de la prière. Et le danger pour nous, c'est d'abandonner beaucoup trop vite, d'abandonner parce qu'il nous semble n'arriver à rien. Le Seigneur nous demande simplement cette goutte d'eau qui fera jaillir le flot. Nous avons mentionné seulement quatre aspects de la prière et nous avons parlé de quelques-unes des difficultés que nous rencontrons à l'égard de chacun d'eux. Nous n'avons pas éclairci ces difficultés. Nous consacrerons donc toute l'étude suivante au cinquième aspect de la prière. Et ensuite, nous reprendrons plus longuement les difficultés pour essayer de leur donner une réponse. Ces difficultés, cependant, ne se trouvent réellement que dans le domaine de l'esprit. Et tandis qu'elles peuvent parfois entraver le chemin de la foi, eh bien la foi triomphera d'elle et laissera derrière elle une histoire de choses puissantes et merveilleuses malgré elle. Chers amis, exceptionnellement, je ne vous donnerai pas une prière qui va accompagner cette étude d'aujourd'hui, et je vous demanderai de réécouter quelques-unes des choses qui vous ont peut-être frappé dans cette étude. Et ensuite, essayez humblement, « Oh, je vous demande pardon de vous dire cela, c'est tellement délicat, je voudrais heurter personne. Mais est-ce que vraiment nous aurions honte de nous agenouiller et de prier que quelques phrases essentielles de ce qui nous concerne personnellement et de les soumettre à notre Sauveur et Seigneur? Je vous demande donc d'essayer de faire cela et vous verrez qu'il y a des réponses, qu'il y a des changements qui se feront, je vous le promets. Donc, pour aujourd'hui, nous arrêtons ici, et demain matin, Dieu voulant, nous prendrons la suite de cette série. À demain matin donc, Dieu voulant, vu mon très très grand âge, c'est pas toujours évident, mais nous sommes tous prêts. Vous qui avez écouté toutes ces études, la plupart d'entre vous sont prêts, prêts pour aller dans l'éternité. Alors je vous dis au revoir, que le Seigneur vous bénisse richement, car il vous aime, vraiment il vous aime. Soyez-en assurés. À bientôt, au revoir.